והם אמרו שלושה דברים. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי לנוער לכעוס, שוב יום אחד לפני מיטתך, והווה מתרמם כנגד אורן של חכמים, והווה זעיר בגחלתן שלא תרווה, שנשיכתן נשיכת שוהל, ועקיצתן עקיצת הקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחל אש. נודי איסי למשנה, que les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai nous ont apporté trois enseignements. Le premier, Rabbi Eliezer nous disait que l'estime que l'on porte à son camarade doit être égale à l'estime que l'on se porte à soi-même. De même, nous dit la Mishnah, ne te mets pas facilement en colère. Troisième enseignement, repentis-toi un jour avant la mort. La Mishnah nous dit ensuite, réchauffe-toi à la lumière de nos sages, sois très prudent de ne pas te brûler aux braises répandues par nos sages, car sache que leur morsure, la morsure de nos sages, ressemble à la morsure d'un chacal. Leur piqûre ou leur morsure ressemble également à la morsure d'un scorpion. Et leur piqûre est semblable à un serpent qui nous pique. Et sache que toutes leurs paroles ressemblent à un feu ardent. Alors évidemment, ici, il y a beaucoup d'explications que l'on doit donner, surtout en ce qui concerne la fin de la Mishnah. Nous allons y venir tout à l'heure. Tout d'abord, que nous dit Rabbi Eliezer ? Que l'estime que l'on doit porter à son camarade doit être égale à l'estime que l'on se porte à soi-même. Ici, en vérité, la Mishnah nous donne une méthode, comment aimer son prochain. Il est facile de dire « aime ton prochain » ou même « aime ton prochain comme toi-même », mais cela reste un petit peu abstrait. Le problème est comment s'y prendre, comment apprendre à aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Alors ici, la Mishnah nous donne une méthode. Elle nous donne une sorte d'enseignement pédagogique, on pourrait presque dire comment y arriver. Nous dit en vérité Raphaïm de Vologine qu'on a toujours tendance à estimer que l'amour ou l'estime que l'on donne à son prochain est toujours bien au-delà de ce qu'il faudrait, en tout cas elle est toujours très grande, mais par contre ce que l'on reçoit soi-même, c'est toujours insuffisant. Par contre, ce que l'on donne à son camarade, c'est suffisant et même au-delà. Alors donc ici, la Mishnah nous donne un instrument de mesure. Si tu veux réellement apprendre à aimer ton camarade, à aimer ton prochain, alors sers-toi d'instrument de mesure. Réfère-toi toujours par rapport à ce que tu voudrais pour toi. Si effectivement tu estimes ou tu penses que l'estime que tu donnes à ton prochain est suffisante et même bien au-delà, compare-la de manière objective à l'estime que l'on te porte ou que tu voudrais que l'on te porte. À ce moment-là, tu pourras réellement savoir et apprécier si tu aimes ton ami ou ton prochain comme il le faudrait. Nous dit donc ensuite la Mishnah, ne te mets pas facilement en colère. Comme nous avons déjà dit, il y a ce que l'on appelle des bonnes midot et des mauvaises midot. Ce que l'on appelle mida, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, mais c'est important de retenir le terme, c'est traits de caractère. Les traits de caractère de l'homme. Il y a donc les bonnes midot, c'est-à-dire les qualités, les mauvaises midot, les défauts. Le chaos, la colère, nous disent nos sages, est l'une des pires midot. L'une des midot les plus terribles, si ce n'est pas la pire. Nous disent effectivement nos sages que celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. C'est comme s'il oubliait Akadosh Baruch Hu. Parce que celui qui est effectivement à la fois en Akadosh Baruch Hu, qui sait que tout ce qui lui arrive, y compris de son prochain, ça n'arrive uniquement que parce qu'Akadosh Baruch Hu le permet, alors celui-là n'a plus de raison de se mettre en colère. Lorsqu'il se met donc en colère, c'est comme s'il avait oublié que Kadosh Baruch Hu existait, et il n'y a peut-être pas pire attitude que celle-là. Nous disait d'ailleurs Rav Volbe le jour de Rosh Hashanah, quand Kadosh Baruch Hu nous juge, alors il est souvent difficile de savoir ce qu'il faut faire. Comment faire pour passer le jugement? Comment faire pour arriver à être jugé de manière positive le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de jugement de toute l'année? On se pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faut faire? On oublie souvent de se poser la question, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et nous dire à Volbe, la dernière chose à faire, c'est de se mettre en colère. Se mettre en colère, c'est tout faire pour rater le jugement. C'est tout faire pour rater le jour de Rosh Hashanah. Et donc, si effectivement il faut aussi savoir comment se conduire, n'oublions pas qu'il faut aussi savoir comment ne pas se conduire, et la première chose à éviter, c'est de ne pas se mettre en colère. Or, si on voit l'enseignement de la Mishnah, il est apparemment surprenant. L'enseignement de la Mishnah ne nous dit pas d'éradiquer la colère, d'extirper la colère, de ne jamais se mettre en colère. Il nous dit ne te mets pas en colère trop facilement, ne te mets pas facilement en colère. Alors, ça veut dire quoi? En vérité, c'est en nous, Rabbi Yonah nous explique quelque chose sur lequel nous sommes déjà revenus plusieurs fois. C'est que même si nous avons dit au départ qu'il y a des mauvaises midot et des bonnes midot, en vérité, il n'y a pas de mida qui soit en essence foncièrement bonne ou foncièrement mauvaise, quand bien même s'agirait-il de la colère. Ce qui est mauvais en soi, ce n'est pas la colère. C'est la mauvaise utilisation de la colère, l'excès de colère. Mais parfois, il faut aussi savoir se mettre en colère. Par exemple, lorsqu'on a affaire à quelqu'un d'insolent, lorsqu'on a affaire à quelqu'un de mal éduqué, nos enfants par exemple, s'ils ne sont pas éduqués dans le bon chemin, il faut à ce moment-là savoir utiliser l'amida de la colère afin d'arriver à de meilleurs résultats. Et celui qui ne se mettra jamais en colère, quelles que soient les circonstances, lui aussi aura tort. En vérité, ce qui est mis en cause ici, c'est le manque de contrôle sur soi-même, le manque de maîtrise. Celui qui se met en colère sans se maîtriser, c'est celui-là que condamnent nos sages. C'est celui-là dont parlera Volbe le jour de Rosh Hashanah. Une colère peut prendre place à condition qu'elle soit mesurée, et surtout, c'est là le mot-clé, qu'elle soit réfléchie. Que l'on sait qu'ici, on doit se mettre en colère. Non pas que l'on soit réellement en colère. Surtout pas que l'on en vienne à être hors de soi et que l'on perde tout contrôle de soi-même. Cela, évidemment, est foncièrement mauvais. Mais que l'on se mette en colère parce qu'on sait qu'ici, il faut taper du poing sur la table. Cela aussi peut arriver. Nous dit ensuite l'enseignement suivant. Repentis-toi avant la mort. Un jour avant la mort. Alors, l'enseignement est bien. Le problème, c'est qu'en général, une personne ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Donc, ça veut dire quoi, repentis-toi un jour avant la mort? Eh bien, tout simplement, repentis-toi un jour avant la mort. Cela veut principalement dire qu'il faut tous les jours se repentir. Le repentance, la traduction est un peu mauvaise, en hébreu on dit la tshuva, ce doit être quelque chose que l'on doit faire chaque jour, parce qu'effectivement, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir. Mais en vérité, il y a plus que cela. Nous dit le Maharal qu'en vérité, même le tzaddik, même le juste, même l'homme qui est arrivé au maximum de ce qu'il devait arriver, lui aussi fautera. Ainsi que nous disent nos sages, il n'y a pas de tzaddik qui un jour ou à un moment donné n'a pas fauté ou ne faute pas dans sa vie. En vérité, et là c'est le Tchare Tchouva qui nous le dit, la différence entre le tzaddik et le racha, entre l'homme bon et l'homme mauvais, ne tient pas à cela, en cela que le tzaddik ne faute pas et le racha faute. Le tzaddik aussi, l'homme juste aussi, peut tomber dans le piège de la faute. Mais ce qui différencie le tzaddik du racha, c'est que le tzaddik, une fois qu'il sera tombé dans le piège, une fois qu'il aurait fauté, alors il prendra conscience de sa faute et se fera tshuva. En tout cas, fera tout pour faire tshuva. C'est la tshuva, nous dit le Share Tshuva, qui fait différencier l'homme juste de l'homme mauvais, le tzaddik du racha. Et c'est pour cela que l'on doit, à chaque moment, à chaque instant dans notre vie, ou peut-être pas à chaque instant, parce qu'on est souvent trop occupé, mais au moins chaque jour, faire tshuva. Un autre enseignement, une autre explication de cet enseignement, lorsque l'on dit « shuv yom echad lifnei mitatra »« reviens, fais tshuva un jour avant la mort », il y a aussi ici, on pourrait dire, presque un message d'espoir. Il y a souvent un homme qui, toute sa vie, a fauté, toute sa vie s'est conduite comme un rachat et il sait maintenant qu'il va agoniser, que sa vie est terminée, souvent malheureusement ou heureusement d'ailleurs, quand le dernier moment de sa vie arrive, on en est souvent conscient, et à ce moment-là, il pourrait tomber dans le désespoir. Que puis-je faire? Moi qui ai fauté toute ma vie, c'est maintenant que je suis agonisant que je vais faire tchouva. Alors, nous dit Rav Avraham Azoulay, c'est là aussi un enseignement de notre Mishnah. On peut toujours faire tchouva même au dernier moment, même si on a fauté toute sa vie et que l'on arrive maintenant au dernier moment de sa vie, au dernier moment de son existence et que l'on est agonisant, il n'est toujours pas trop tard pour faire tchouva. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il faut attendre le dernier moment pour faire tchouva. Nous avons dit exactement le contraire. Chaque jour, l'homme doit faire tchouva. Ave mitramem keneged uran shel chachamim. Réchauffe-toi à la lumière, ou plutôt, on pourrait dire, à la chaleur de nos sages. Le sage nous dit, cet enseignement répand de la lumière et surtout de la chaleur. Alors, en vérité, cela veut dire quoi? Réchauffe-toi à la lumière de nos sages ou à la chaleur de nos sages. Nous disent ici les commentaires que la Torah ressemble à du feu et comparée à du feu. En vérité, elle n'est pas comparée à du feu. La Torah, c'est du feu. C'est le feu de la sagesse, c'est le feu de la création, c'est le feu par définition. Le feu que nous connaissons, le feu que nous connaissons, n'est en vérité qu'un pâle reflet du feu de la Torah, même s'il s'agit là, bien entendu, d'un feu spirituel. Or, nous disent, et les sages, nos sages, nous disent ici les commentateurs, lorsque l'on étudie la Torah, alors cela réchauffe notre corps. Peut-être pas de manière matérielle, même si souvent on disait que certains sages, quand ils étudiaient même dans le froid, même à moins 20, ou même dans des conditions très difficiles, le feu de la Torah faisait que cela réchauffait leur corps de manière physique. En tout cas, l'étude de la Torah, même si on n'est pas à un tel degré que l'on arrive physiquement à réchauffer notre corps grâce à l'étude, elle nous réchauffe spirituellement. L'étude de la Torah est quelque chose qui réchauffe. Et ici, cet enseignement du Pirkei Avot vient nous rajouter quelque chose de très important. C'est que le feu de la Torah ne peut rentrer en nous que si on étudie à la lueur ou à la lumière des enseignements de nos sages. Très souvent, une personne, n'est-ce pas, a tendance à trop se considérer, elle ouvre la paracha, ou elle ouvre un livre de Gemara ou de Halakha, elle rentre directement dans le livre, elle a l'impression qu'elle le comprend très bien, elle s'appuie sur sa propre intelligence et sur sa propre réflexion, et met de côté tous les enseignements et tous les commentaires de nos sages, croyant certainement qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Même si on comprend, ou en tout cas que l'on croit comprendre, il faut toujours faire en sorte de ne jamais se départir des enseignements de nos sages et de toujours tenir compte de leurs enseignements lorsque l'on rentre dans l'étude de la Torah. Alors, que nous dit ensuite et le Pirkei Avot, comme nous l'avons dit, donc, sois très prudent. Sois très prudent en ce qui concerne nos sages, parce qu'ils ressemblent presque, on pourrait dire, à des braises brûlantes. Et à ce moment-là, le Pirkei Avot nous rajoute quelque chose de surprenant. Il dit la morsure, lorsque nos sages nous mordent, alors leur morsure ressemble à une morsure de chacal, à une morsure ensuite de scorpion. Et leur piqûre ressemble à une piqûre de serpent. Alors évidemment, ici, on pourrait être très très étonné de cet enseignement. On pourrait être, effectivement, ne pas le comprendre. On parle ici de nos sages, on parle ici de tzadikim. Et voilà que l'on compare, n'est-ce pas, l'exact des tzadikim à des morsures de scorpions, de serpents, de chacal, à tout ce qu'il y a de moins élogieux dans le monde. Alors évidemment, ici, on ne comprend plus tellement ce qui se passe. Le Chofetz Chaim, dans son introduction, nous dit que celui, par exemple, que l'on vexe, que l'on atteint profondément dans son honneur, se doit de ne pas répondre. Non seulement de ne pas répondre, mais de ne pas porter rancune, de ne pas garder rancune de ce que l'on vous fait. Et celui-là, celui qui arrivera à ce degré, n'est-ce pas, ce degré de morale et de spiritualité, de ne pas rendre les coups, de ne même pas avoir de rancœur lorsque l'on vous blesse, celui-là, nous dit le Chofetz Chaim, sera considéré par Akadosh Baruch Hu. En vérité, c'est cela, nos sages. Nos sages, nos tzadikim, ce sont des gens qui n'ont pas la rancœur, qui pardonnent, qui sont d'une patience infinie. Rien à voir donc apparemment, en apparence, avec ce que nous dit ici l'enseignement du Pirkei Avot, que leur morsure ressemble à une morsure de chacal. Comment peut-on comparer nos sages, ou du moins leurs actes, leurs actions, à des morsures de chacal, ou de scorpion, ou de serpent? Alors cela, bien évidemment, à la lumière de tout ce que nous avons dit, demande une explication, mérite une explication. En vérité, je commencerai peut-être par l'explication, par un exemple qui est celui d'un de plus grands sages, qui est l'exemple du Stipeler. Le Stipeler, qui était un très grand de la génération d'avant, était un homme d'une bonté infinie. À la lumière de nos plus grands sages, il ne se mettait jamais en colère. Il pardonnait tout. Il acceptait tout ce qu'on pouvait lui faire. A écrit le Stipeler qu'il s'est mis en colère après quelqu'un une seule fois dans sa vie. Imaginez la grandeur du Stipeler. Une seule fois dans sa vie, il était en colère après quelqu'un. Et qui était ce monsieur? Eh bien, son Rebbe, celui qui l'avait enseigné. Pourquoi le Stipeler, qui était un homme tellement bon, qui ne connaissait ni la rancune, ni loin, bien entendu, la haine, ni rien de tout ce qu'il peut faire, n'est-ce pas, les défauts d'un homme ordinaire, pourquoi s'est-il mis en colère après ce Rebbe? Eh bien, il raconte qu'un jour, il y avait une sorte de procession en ville, une sorte de procession, je crois, qui était faite par les prêtres ou les curés de la ville, et cette procession avait un tel aspect, n'est-ce pas, avait l'air tellement belle et tellement jolie qu'elle attirait tous les enfants, y compris les enfants du Talmud Torah, y compris les enfants qui étudiaient avec le Stipeler. Donc, le Stipeler, à cette époque, n'était encore qu'un enfant. Or, ce jour-là, ce jour où il y eut cette procession, le Stipeler vit une vieille femme, aperçut une vieille femme qui avait du mal à transporter ses courses. Et il l'aida à transporter, il aida cette femme-là, cette vieille femme-là, à transporter ses commissions et alla l'accompagna jusque dans sa maison de manière à ce qu'elle n'ait pas apporté tous ses victuailles. Finalement, il arriva, comme la plupart des autres enfants, en retard, c'était donc le jour de cette fameuse procession, et le Rebbe fut très en colère, y compris après le Stipeler. Il dit au Stipeler, pourquoi es-tu arrivé en retard? Le Stipeler a dit, j'ai aidé une vieille femme à transporter ses victuailles. Et le Rebbe lui dit, non, tu es un menteur. Si tu es arrivé en retard à l'école aujourd'hui, c'est parce que tu as été voir la procession des goyim, voir la procession des curés. Et tu sais que c'est interdit par la Torah. C'est pour ça que tu es arrivé en retard. Nous dit le Stipeler, c'est la seule fois dans ma vie où je me suis mis en colère. Se mettre une seule fois dans sa vie en colère, vous accepterez que c'est quand même un record. Et pourquoi juste dans ce cas précis? Pourquoi dans ce cas précis, le Stipeler en a voulu à son Rebbe? Eh bien, c'est le Stipeler lui-même qui nous l'explique. Il dit, je n'en ai pas voulu au Rebbe de m'avoir blessé. Je n'ai pas voulu au Rebbe de m'avoir vexé. Il n'avait même, en tant qu'enfant, le Stipeler n'avait pas été vexé. J'en ai voulu pour son erreur de jugement. S'il me connaissait réellement, il saurait que j'avais dit la vérité. Or, il ne me connaît, le fait même qu'il ne m'ait pas cru montre qu'il ne me connaissait pas. Et un Rebbe qui ne connaît pas ses élèves ne doit pas être Rebbe. Donc ici, nous avons la réponse peut-être à toutes les questions que nous avons posées. Nous avons dit, comment peut-on comparer nos sages à des scorpions ou à des serpents alors qu'ils sont exactement, ou du moins leurs actes, à des actes de scorpions ou de serpents alors que nos sages sont exactement le contraire? Ah bien, nous avons ici toute la réponse. En vérité, quand le Stipeler en a voulu à ce Rebbe, c'est la seule fois dans sa vie où il était en colère après quelqu'un, c'était pour tout sauf pour des raisons personnelles. 9 fois sur 10, lorsqu'un homme ordinaire se met en colère après son fils, son voisin, sa femme ou je ne sais pas qui encore, c'est uniquement ou principalement pour des raisons personnelles. Lorsque le Stipeler s'est mis en colère après ce Rebbe, ce n'était pas pour des raisons personnelles, ce n'est pas parce qu'il l'avait vexé personnellement. C'est parce qu'il avait montré par son erreur de jugement qu'il n'était pas à sa place, qu'il n'était pas capable d'enseigner des enfants et que donc il ne devait pas être Rebbe. Et qu'en étant Rebbe, il faisait du tort aux enfants et du tort à la future génération qui allait venir et qui devait être la future génération du peuple juif. C'est pour ça qu'il en a voulu le Stipeler, non pas pour une raison personnelle, comme nous l'avons dit, mais pour une raison tout sauf personnelle, pour une raison justifiée, pour une raison amitié, pour une raison authentique. Et c'est ça qui rend la colère de nos sages si terrible. Parce que lorsque nos sages ne se mettent jamais en colère, et lorsqu'ils se mettent en colère, ce sont pour des raisons justifiées, des raisons vraies, pas pour des fausses raisons ou des raisons personnelles. Et quand une colère est justifiée, alors elle a des résultats terribles. Des résultats que nous devons méditer et qui sont pour nous un objet, effectivement, d'avertissement. Nous dit ici le Pirkei Avot, que les paroles de nos sages sont comme ressemblent à du feu ardent. Alors ici, nous dit le Tosefet Yom Tov, il nous ramène un enseignement, que celui qui fendit, qui démolit, qui casse la barrière établie par nos sages, à la fin, il sera mordu par un serpent. Voilà ce qui lui arrivera. Alors évidemment, là, il s'agit un petit peu, encore une fois, de quelque chose qui demande d'être compris. Ça a l'air un petit peu comme ça terrifiant de dire cela. Évidemment, cet enseignement doit être compris. En vérité, les paroles de nos sages, lorsqu'on parle ici des paroles de nos sages, le Pirkei Avot veut nous dire ici qu'on parle de leurs enseignements et surtout de leurs décrets. Les Chachamim, nos sages, ont fait toutes sortes de décrets, ont institué toutes sortes d'interdictions qui sont destinées à nous servir de barrières, de paravents, de garde-fous pour ne pas commettre des fautes qui sont des fautes de la Torah. Par exemple, le Shabbat nous donne plein d'exemples de cela. Il y a une interdiction, par exemple, de la Torah de réparer un instrument. Par exemple, quelqu'un qui a une guitare, oui, alors, et s'il raccorde sa guitare, il fait une avéra, il transgrit une interdiction de la Torah. Il transgrit une interdiction de la Torah. Alors, les rabbins nous ont interdit de jouer de la guitare de peur que celui qui vienne à jouer de la guitare, raccorde sans faire exprès sa guitare et vient à ce moment-là enfreindre un interdit de la Torah. C'est cela les barrières établies par nos sages. Les barrières établies par nos sages sont en vérité des interdictions que nos sages ont instituées et qui nous évitent de faire des fautes de la Torah. Et celui qui ne respectera pas les interdictions instituées par nos sages en viendra de manière automatique à faire des fautes à transgresser des interdits de la Torah et à ce moment-là pourra effectivement en arriver à recevoir des châtiments terribles comme celui un jour d'être mordu par un serpent.